Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, une petite mise à jour sur les sorties d'histoires de succès à l'heure du confinement qui rendent bien sûr impossibles les rencontres et compliquent grandement la tâche pour les interviews. Ceci dit, j'ai quelques épisodes déjà enregistrés que je vais vous diffuser dans les semaines à venir et je vais réaliser mes prochaines par téléphone. Le son sera moins bon et le téléphone rend les échanges un peu moins fluides, mais je préfère cela à pas d'interview du tout et j'espère que vous aussi. Rendez-vous donc tous les jeudis matins à 6h du mat pour de nouveaux épisodes d'Histoire de succès, même pendant le confinement. Pour revenir à l'épisode de la semaine, je suis très heureux de recevoir William Régeau, que vous avez peut-être connu sous le pseudo de Ron l'infirmier, à l'époque où il écrivait sur son blog son quotidien de personnel soignant. Depuis, il a arrêté son métier d'infirmier, il se prénomme désormais William Régeau, il a écrit 9 livres et a un parcours pour le moins atypique qu'on va retracer ensemble. J'espère que vous apprécierez la personnalité de William et cet entretien que j'ai adoré mener avec lui. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de William.
Je disais que ça me faisait plaisir d'être dans Histoire de Daron parce que j'ai tellement de choses à raconter sur les darons. Non, c'est pas ça.
Tu voudrais être papa ?
Pardon ?
Tu voudrais être papa un jour ?
J'aimerais bien être papa un jour, oui, mais à mon âge, je pense que c'est un peu tard parce que je pense que ça demande tellement d'énergie d'avoir un gamin.
Ça demande pas mal d'énergie, ouais.
Tu le sais, t'en as eu 7.
Alors, chut, ils sont cachés. J'en ai 2 officiels. Et 5 autres dans chaque port du monde. Mais ouais, t'as raison, ça demande un peu d'énergie. Après, je sais pas en fait si comme c'est nouveau, tu vois, même à notre âge. Parce que t'as quel âge toi ?
Je n'ai l'âge, on ne le dit plus.
Mais Madonna, je te jure.
Et tous les chiffres qui sont sur internet sont faux.
Bon, on est avec William Régeau. Salut William.
Bonsoir.
Bonsoir Fabrice. Ou bonjour.
Bonjour. Ça dépend à quel âge vous nous écoutez.
On ne sait pas parce que les gens ils font bien comme ils veulent.
Exactement.
Sur internet.
Exactement.
William, on se connaît depuis un petit bail, toi et moi. On se connaît depuis le festival de romans, des festivals des blogs,
oui.
En 2007.
Oh là, 12 ans déjà.
C'est ça, non ?
Oui, c'est ça, exactement.
Oh, quelle aventure.
Oui, roman sur Isère, je crois qu'il y en a eu 2, c'était un festival sur les blogs.
Voilà.
C'est ça ?
Et on était les 2 connards, je pense, à l'époque. Avoir sorti nos livres.
Oui.
Nos blogs en livre.
Nos blogs en livre, exactement.
Et on avait
une invitation.
Une séance de dédicace.
Ouais. Il y avait Jean-Claude Dacier de TF1 qui était venu avec tout son état-major, je m'en souviens encore.
Putain, mais comment tu te souviens de ça ?
Parce que je suis hypermnésique. Et on va en parler plus tard.
On reboucle !
Ouais.
Tu viens de sortir un livre.
Oui,
qui s'appelle.
C'est l'histoire d'un zèbre aux éditions Le Duc.
Tu sais, tu n'es pas obligé de le... Il n'y a pas de vidéo. Donc
Ah oui, parce que je le montre à la caméra, mais parce que je la cherche depuis 10 minutes, il n'y a pas de caméra. Merde.
C'est un podcast audio.
Ah zut, j'aime. Bien sûr, le podcast. Ah, c'est les trucs que les gens écoutent dans le métro en partant travailler.
Exactement.
Bien sûr.
C'est aussi l'occasion de reboucler, comme quoi en fait, les zèbres qu'on appelle aussi surdoués sont parfois pas aussi surdoués que ce qu'on peut penser, surintelligents, n'est-ce pas ?
Bien sûr, on est parfois cons comme des mâles, c'est mon cas. J'ai des capacités cognitives très élevées dans certains domaines et très très basses dans d'autres. Voilà. Et c'est vrai, je ne considère pas comme intelligent.
Mm-hmm.
Je me considère comme ayant une intelligence différente.
On va en reparler.
Oh, oui.
Un peu après, beaucoup après. Mais avant ça, tu sais, t'es dans Histoire de succès, et donc, bon, pas Histoire de daron, on va pas parler de ta parentalité qui n'existe pas, mais on va parler de ton parcours. Avant d'aller plus loin, en fait, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est à quoi ressemblait William quand il avait 7-8 ans ?
William, quand il avait 7-8 ans, il était dans les Landes. Donc j'étais dans les Landes, c'était la France de Mitterrand. Il faut imaginer un endroit un peu reculé, 500 habitants, 3 chaînes de télé. On capte à peine M6, ça, tout brouillageux. Et on rentre un code papier qu'on reçoit tous les mois pour voir Canal+. Le premier village est à 15 bornes, le gros village. Il faut prendre un bus, il y en a un le matin et un le soir pour y revenir. Je m'ennuie beaucoup, il y a beaucoup de champs de maïs autour de la maison. J'ai pas grand chose à faire. Il n'y a que la bibliothèque qui est mon activité principale. Donc je lis beaucoup, beaucoup de livres. Tout ce qui me tombe sous la main, je le lis.
À l'école, socialement?
J'ai plein de potes, ça se passe bien. Moi, jusqu'en sixième, tout va bien. C'est la puberté qui a tout foutu en l'air.
Comment ça?
Eh bien, quand on commence à avoir, tu sais, la puberté, les poils dans les zones génitales.
Je connais pas.
Quand les enjeux, les luttes de pouvoir entre garçons et filles, les moments de séduction arrivent, tous les potes deviennent des concurrents et les garçons plus faibles deviennent des proies pour les autres. Donc, ça devient un peu plus compliqué.
Tu veux dire que tu faisais partie des garçons plus faibles, c'est ça?
Oui. Ah non, non, je n'affichais pas de masculinité toxique. Non, j'étais un garçon, oui, j'étais la proie d'autres, évidemment. Oui.
Comment t'arrives à en sortir de ce... Comment ça se concrétise exactement? Tu te fais harceler? C'est parce que
oui,
je pense qu'à l'époque, ça n'existait pas le terme. Hein. C'était juste, c'est des jeux d'enfants, je pense.
Je me faisais traiter. Ah non, 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 non. Ah oui, harceler, ça n'existait pas, mais on se faisait traiter, comme on dit maintenant.
Non, mais les adultes disaient c'était des jeux d'enfants.
Exactement. Voilà. C'était des mots difficiles qu'on entendait, que je n'ai pas envie de répéter parce qu'ils pourraient blesser des oreilles sensibles. Et c'était des coups, c'était des menaces. C'était, je me rappelle, on m'a balancé sur la route une fois quand il y a des bagnoles qui passaient. Ah, c'était du harcèlement vécu par un jeune ado de manière très difficile, dans la peur, dans la honte, dans l'angoisse tout le temps. Ouais.
Comment t'arrives à en sortir?
Je me mets vraiment, je me dis à l'époque qu'il faut trouver une parade à ça et c'est l'humour. Je me mets à être drôle, ce que j'étais pas avant, tu l'entends, drôle du sud-ouest. Je me mets à être drôle, je me mets à être volontairement dans la provoque et dans l'humour pour essayer de faire une sorte de gilet pare-balles contre ces mots et contre ces actes. Et je me rends compte que ça fait marrer les filles. Ça fait pas trop marrer les mecs, mais ça fait marrer les filles. Et donc je commence à avoir des copines filles autour de moi qui me protègent un petit peu de ce harcèlement.
Tu parles de ça, c'est quand? C'est lycée, c'est ça? Collège,
sixième,
lycée?
Sixième, troisième, ça se calme. Il y a un apex au niveau du lycée. La première seconde, ça passe terrible. Elle est affreuse, cette première seconde. Je pense que j'ai failli mourir à ce moment-là. Et au même moment, je me retrouve dans un lycée de garçons, lycée catholique de garçons. Il n'y a que des mecs où je me dis, là, je vais vraiment me suicider. Je vais vraiment être harcelé. Et bah, pas du tout, ça se passe super bien. Donc ça a duré, je dirais, jusqu'à la première seconde. Et à partir du lycée, c'était fini. Étonnamment.
Tu dis qu'en seconde, t'as failli te suicider.
Ah ouais, clairement, ouais, bien sûr. Bah, quand t'es harcelé par 400 personnes dans un lycée...
À ce point-là, le monde entier, le lycée
quand,
entier.
Bah, quand tu te fais insulter dans des couloirs, quand on te traite de nom...
C'était pas un groupe,
ouais, c'était une sorte de mouton noir à
battre. C'était la tête à claque de tout le lycée, quoi.
Ah, il y en avait plusieurs, peut-être, mais moi, en tout cas, c'était visible, ouais. C'était très, très lourdingue. Très, très lourdingue. Ouais.
Ok.
Ça manquait de maturité.
C'est comme ça que tu le vois.
Bah, tellement non, drôle. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que ces mêmes personnes, 3 ans après, tu les revois à la fac, elles disent « Ah, mais comment tu vas, William? Ça va, on s'est pas revu depuis le lycée et tout. » Attends, ils leur disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1000 jours, là? Vous avez... c'est dingue, non ?» Ouais, ça manquait de maturité, ouais, clairement.
J'adore. Non, mais ta réaction... Pardon, j'ai ri, c'est ridicule, mais vraiment.
Mais non, mais pas du tout.
Ta réaction était tellement drôle. Ça manquait quand même de maturité.
Et c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Bah, ce sont des gens qui manquent à la fois d'éducation, mais surtout de maturité pour penser que une personne différente, quelle que soit sa différence d'ailleurs, puisse les angoisser à ce point-là, et donc forcément qu'il faut le pointer du doigt et l'insulter. Bah, écoute, ouais, je trouve ça un peu dommage pour eux.
En sortant du bac, tu t'es dirigé vers des études d'infirmier? C'est ça?
Ou
alors,
oui,
t'as rien à voir du tout?
Non, j'ai essayé un peu la fac de lettres, mais ça s'est pas très bien passé parce que ça m'intéressait pas trop, tout ça. Donc j'ai fait des études d'infirmier après, ouais, parce que je me suis dit que je serais jamais au chômage. C'est mon côté pratique, tu vois.
C'était ça ou c'était le fait de soigner des gens aussi?
Pas du tout.
Okay.
Non, d'abord j'ai confondu entre ambulancier et infirmier, c'est vrai. Parce que j'adorais conduire et je m'étais dit, tiens, je vais peut-être être bien dans ma voiture tous les jours à conduire des gens.
Très peu en tant qu'infirmier.
Ah bah, c'est vrai. Sauf si tu es à domicile. Mais ça paye moins bien. Et donc j'ai fait infirmier parce que la dame du Crous m'a dit, vous savez, ambulancier infirmier, c'est pas la même fiche et je crois que c'est pas le même boulot. Elle m'a sorti les fiches et puis effectivement j'ai vu qu'infirmier, il y avait quand même un peu plus d'intérêt. C'était plus long surtout.
Je pense que t'es la première personne de tous mes épisodes, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a une vingtaine jusque-là, qui me dit qu'une personne du CROUS, ou en tout cas du recrutement, de l'orientation, leur a servi à quelque chose.
Ah, écoute, moi en tout cas, elle m'a servi parce qu'elle m'a dit qu'il faut passer le DUCS, qui était le diplôme universitaire aux carrières sanitaires et sociales, et j'ai eu 0 sur 20 à l'entretien, et ils m'ont dit vous n'êtes pas fait pour ce métier, vous ne l'aurez jamais. Ça, c'est la dame du CROUS qui m'a poussé à faire ça. Et quand je suis revenu la voir, elle m'a dit mais il faut tenter les concours directement, et j'ai eu les concours, je suis rentré premier dans 2 écoles.
Donc avec une veine très pratico-pratique du style sauvegarde, enfin sécurité de l'emploi quoi.
Je pense que le harcèlement qui a créé une insécurité, une angoisse et une hypervigilance dans l'adolescence a développé en moi une recherche de sécurité à tout prix qui s'est développée et accrue dans plein de domaines après. Et la première sécurité, ça a été sécurité professionnelle. C'est, il faut que je me mette en sécurité, voilà. Et c'est un travail sur les traumas de l'enfance qui est en train d'être en cours en ce moment, sur lequel j'ai beaucoup bossé. La première priorité, ça a été trouve du boulot partout. Et d'ailleurs, la preuve était que quand j'ai voulu partir après des années plus tard, dès que j'ai eu mon diplôme, je quittais un boulot en claquant des doigts, j'en retrouvais un tout de suite. C'était vraiment le boulot idéal pour ça.
Oui, c'est sûr que un peu comme serveur, barman ou je sais pas quoi,
avec plus d'injections quand même. Mais c'est vrai.
Il vaut mieux, d'une manière générale, que ton barman te fasse pas des piqûres.
Non. Ou alors c'est certains bars à Amsterdam, mais la drogue c'est mal.
C'est pas recommandé.
C'est vrai, non, c'est pas recommandé. Enfin, la drogue, c'est mal, ça dépend de quel moment et de quelle dose. Enfin, on n'est pas là pour juger.
D'une manière générale.
Voilà.
De toute façon, est-ce que vous êtes adulte, vous qui écoutez? Je ne sais pas. Si vous l'êtes, c'est votre problème. Sinon, sachez que.
Il y a les narcotiques anonymes tous les mardis soirs à République. Voilà.
Merci William pour cette recommandation. Tu exerces combien de temps avant de te lancer? Parce que moi je t'ai connu à l'époque par les fameux blogs. Alors pour celles et ceux qui ne connaissaient pas à l'époque, c'était avant Facebook, c'était avant Twitter, c'était avant Instagram. On avait la possibilité en tant que particulier de lancer un site internet très rapidement qui permettait de pouvoir publier des billets assez facilement sur internet. Ça s'appelait les blogs.
C'était comme un Tumblr sans le sexe. Mais comme c'est Tumblr vrai. Est revenu sans sexe à nouveau, c'était un Tumblr chiant. Et plein de gens, non c'est vrai, on démarrait des carrières incroyables grâce au blog. C'était au tout début des années 2000, 2003, 2007. Les blogueurs se retrouvaient à Paris dans des conférences entre blogueurs. On était invités par des marques. Certains sont devenus des stars et en ont fait une profession. D'autres ont disparu totalement. Mais il y a eu une communauté qui a jailli comme ça et dans laquelle j'ai été en tant qu'infirmier anonyme à l'époque. Donc pour te répondre, j'ai fait ça pendant 13 ans et j'ai ouvert mon blog sur les 4-5 dernières années de ma profession.
Donc c'était en quelle année à peu près?
J'ai bossé de 95 à 2008 à peu près, et okay. Mon blog a été ouvert en 2003.
Ok. Tu t'es fait connaître grâce à ça, donc ouais. Ton pseudo c'était Ron l'infirmier.
C'est ça.
Moi je pensais que tu t'appelais Ron en plus.
Non, 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 parce que Ron c'est Ronald, faut pas déconner, je suis vieux mais pas à ce point-là.
C'était une ref à Ron Weasley.
Absolument.
Ouais. Monsieur est fan d'Harry Potter?
Pas du tout. Non, c'est long, c'est trop long à expliquer. C'est trop long.
Alors on a le temps.
Non, mais je trouvais que le petit roux qui était toujours dans l'ombre et qui voulait briller un peu, ça me correspondait un peu, quoi. Voilà, qui était le pauvre petit qui fait pitié, référence à l'enfance, l'adolescence, tout ça. Voilà, Ron Weasley, ça m'allait bien, moi.
Ok, voilà. D'accord, je savais pas.
Ouais.
Ok. Et donc tu te fais connaître grâce à ça. Qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans le blog à l'époque?
Moi, j'ai toujours eu un besoin de m'exprimer, de vraiment de créativité, et je me dis que si je peux avec ce truc facile à mettre en ligne toucher plein de gens, c'est vraiment le truc le plus simple pour moi parce que l'écriture c'est un truc que j'adore et que je maîtrise. Je suis pas trop photo, je suis pas du tout dessin, je suis pas du tout musique, donc je me dis écris et comme ça tu vas pouvoir raconter ce que tu vois et ça va être un exutoire à tes journées difficiles. Et tout de suite il y a une communauté qui débarque. Il y avait peu de soignants à l'époque. Pas de soignants qui parlaient, et plein de gens débarquent, et j'ai des commentaires tout de suite, et le blog devient tout de suite populaire.
Donc tu montrais un peu les coulisses de ta vie?
Ouais, de manière anonyme, je racontais tous les jours ce que j'avais vécu dans un service, quand j'étais intérimaire, ou dans une chambre, auprès d'un patient, il y avait toujours quelque chose qui m'avait marqué dans une journée, que je notais sur un carnet, et le soir je revenais et j'écrivais sur mon blog, de manière un peu plus romancée, ou un peu plus littéraire, ce que j'avais vécu.
À l'époque, si je me trompe pas, ton blog est repéré. Et en fait, oui. C'est la grande mode des maisons d'édition de justement prendre les blogs et de venir les éditer en livre.
Alors, en fait, c'est les Inrock qui me classent dans les 50 meilleurs blogs mondiaux à l'époque. Wow. Ouais, je te jure, c'est vrai.
Je savais pas ça.
J'ai toujours le numéro à la maison et il y avait 50 blogs dans le monde et c'était en 2006. Et c'est suite à ça que des éditeurs débarquent sur le blog et commencent à me proposer des choses. Ouais.
Wow.
Ouais. Et donc, je reçois des propals tout de suite de maisons d'édition. Je dis non immédiatement à plein de gens parce que ça me fait peur et parce que je me sens pas concerné par le truc. Jusqu'au moment où Guy Birenbaum, qui est un peu plus, je dirais, un peu plus digitaux que les autres, un peu plus digital, pardon, que les autres, me dit, bah écoute, viens chez nous. Bah, Guy avait son propre blog à l'époque et donc j'accepte. Il avait une maison d'édition qui s'appelait Privé, qui appartenait à Michel Lafon, et j'accepte.
Et donc?
Et donc, je signe mon premier livre en 2006. C'est dingue. Et depuis, on a eu 8. Ouais. Et ce qui est alors très, très cool, c'est que c'est un premier livre. Il se vend bien et il devient un livre de poche, ce qui arrive à très, très peu de bouquins. Mes 3 premiers livres ont été en poche tout de suite chez J'ai lu. C'était... Mais allez, tu sais, quand ça t'arrive, c'est normal. Parce que tu ouvres un blog, ça cartonne. T'es dans les 50 meilleurs blogs mondiaux selon les Inrock. Un éditeur te vient te voir, tu comprends pas pourquoi tous les gens râlent. À l'époque, il y avait une célèbre blogueuse qui s'appelait Vrat, la colère. Tu te rappelles, W-R-A-T-H, qui écrivait contre les coulisses de l'édition. Qui disait, oui, on se fait jamais éditer, c'est la copinerie, c'est l'entre-soi et tout. Et quand toi, ça t'arrive et tu te dis, bah, je suis édité, c'est facile, ça se vend, et en plus, en livre de poche, bah, je comprends pas de quoi les gens se plaignent. Avec le recul, je réalise la chance que j'ai eue. Incroyable.
Comment ça?
Bah, d'abord, tous mes livres n'ont pas marché tous autant que les premiers. Certains, oui, mais pas d'autres. Et ensuite, c'est pas évident de se faire éditer. Mais je connais plein de gens qui ont du talent, et beaucoup de talent, et qui écrivent mieux que moi, et qui galèrent pour trouver une maison d'édition. C'est compliqué, l'édition.
Mais est-ce que c'est pas... Oui, alors c'est compliqué, l'édition. Mais est-ce que, en fait, l'éditeur venait pas chercher à ce moment-là plutôt une voix et ta voix qu'un texte littéraire en tant que tel?
Moi, c'est une des critiques que j'ai le plus souvent entendues, c'est que j'avais pas de talent, que j'étais juste un blogueur qui adaptait son blog en livre. D'abord, c'était faux parce que mon blog, ça n'a jamais été un copier-coller dans mes livres. Il a toujours été réécrit et retravaillé. Ensuite, ça part du principe que parce que ça serait un blog, forcément, puisque ça a été en ligne, ça mérite pas d'être un bouquin. Rien n'est plus faux. Moi, j'utilise les brouillons en ligne. C'est ce que j'appelle des brouillons, mais cette publication en public pour ensuite en prendre une matière et en faire des bouquins. Mmh. Et enfin, j'ai perdu mon point. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui. Je me sentais pas vraiment le blogueur devenu littéraire. Je me sentais juste comme un type qui a écrit, à qui on a donné sa chance. Et Guy est venu chercher surtout un mec qui avait un point de vue et qui avait une sensibilité et qui l'exprimait en écrivant à sa manière. Voilà.
En fait, j'aimerais comprendre comment cette expérience d'édition te permet de faire le pont avec ok, peut-être que ce métier d'infirmier est plus fait pour moi.
Ça se passe pas comme ça.
Okay.
Ça se passe grâce à Voici. Le magazine Voici, l'actualité des gens célèbres, ces gars-là, c'est vrai. Je suis repéré par le groupe Prisma pour conduire des interviews, en fait. Parce qu'ils trouvent que j'ai un ton, je sais plus trop comment ça se passe, cette histoire. Mais je me retrouve à inaugurer la double page de Voici. Tu sais, maintenant, il y a une double page où tu as des interviews, et à faire ça. Et c'est assez génial parce que...
Voici vient de voir alors que...
Parce que j'écrivais sur la Nouvelle Star, je crois. Ah. À l'époque aussi, sur mon blog, il y avait des trucs sur la télé. Et il m'avait trouvé plutôt incisif, plutôt marrant. Donc, il me propose de faire l'interview. Donc, moi, j'avais jamais fait l'interview de ma vie. Donc, je débarque. Je crois que ma première interview, c'était Stevie Boulet du Loft. Ou tu vois, un truc comme ça. Et je fais ça et je touche de l'argent. C'est un truc de malade. Je touche de l'argent. Et quelques semaines après, Michel Lafon me dit qu'ils ont un auteur d'un bouquin sur Tom Cruise qui est en ville. Est-ce que je veux faire ça pour Voici? Je propose à Voici, qui me dit d'accord. Mais ils me disent, c'est en anglais. Est-ce que tu pourras le traduire? Pas de problème. Je le fais. Je fais une double. Et on a la couverture. Je touche une somme folle. Parce que quand tu fais la couverture ou quand tu fais la couverture, tu touches beaucoup d'argent. Et quelques jours après, j'étais dans ma maison de retraite avec mon équipe et les filles étaient en train de lire la presse People. Et elles tombent sur la double page et elles voient ma photo avec l'auteur.
Parce que t'étais plus anonyme à l'époque.
J'avais ma vie Ron l'infirmier en ligne. Ouais. J'avais William Régeau qui faisait des interviews pour Voici, bien okay. sûr. Mais j'aurais jamais cru que mes collègues tomberaient là-dessus. Et là,
c'est Voici, mec.
Eh ben, écoute,
on revient aux zèbres chelous, quoi.
J'ai manqué d'hypervigilance. Voilà, j'étais un peu
c'est
con.
C'est Voici.
Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis moi, j'aime cloisonner les choses. Moi, j'ai des amis qui se rencontreront pas entre eux. J'ai des amants qui ne sont jamais rencontrés entre eux. Et mon boulot, Alain Vec, infirmier, c'était pas mon boulot chez Voici. Et elle voit ça, et tout de suite, je perds ce statut de soignant que j'avais, ce statut d'homme sérieux, ce statut de collègue, pour devenir ce journaliste people, parce qu'elle fouille les autres Voici, elles vont regarder, et elle trouve ma photo à l'époque, et je crois qu'il y a toujours, il y avait toujours la photo de l'intervieweur dans l'interview. Elle me trouve avec Véronique Jeunesse, elle me trouve avec Stevie Boulet, elle me trouve avec Emmanuel Debrandt, et elles me disent, mais qui es-tu? Mais que fais-tu? Et surtout, t'es pas sérieux. Et là, ça commence à, je me dis, ah merde, je suis en train de perdre un statut là. Ouais, c'était compliqué, hein. Un soignant qui fait les interviews dans Voici, comment tu veux qu'après il se positionne sur la campagne anti-grippe, tu vois, pour elle c'était compliqué.
Mais tu... Pourquoi
je sens que ça te trouble.
Pourquoi t'as anonymisé ton blog? Alors je comprends parce que tu parlais de façon, tu parlais de ton métier, etc.
Secret médical.
Voilà. Et pourquoi tu t'es pas dit, bah, en fait, je vais écrire avec un autre pseudo et pas mettre ma photo sur Voici parce que ça me permettrait de pouvoir préserver mon truc.
Alors ça n'était pas possible parce que ça faisait partie d'un positionnement journalistique de Voici à l'époque, de se dire on est sérieux, ils étaient moins people et on met nos noms et nos prénoms et notre photo pour montrer qu'on est on n'est pas des gens qui crachent et ils voulaient construire, on est des gens qui, ils voulaient construire une image. Donc ils changeaient d'approche.
Ok. Donc tu te retrouves à devenir journaliste people auprès de tes collègues, c'est
ouais,
ça?
Oui, absolument.
Et donc petit à petit, c'est le début de la fin, c'est ça pour toi, ta carrière?
Bah, oui, en parallèle, il y avait ça. Il y avait le fait que j'avais été approché par le Poste, donc qui est devenu le Huffington Post, par Benoît Raphaël, pour être un des fers de lance de ce site participatif, média participatif. Il y avait le fait que je bossais pour Amandine Bourgeois, qui avait gagné la Nouvelle Star. C'était toute une époque où plein de gens venaient me chercher pour faire du storytelling. Maintenant, on appelle ça du storytelling dans la narration, mais il y avait tout ça qui arrivait en même temps. Et un jour, on est passé au stade, je dirais, professionnel, puisque Zazie, donc la chanteuse Zazie, m'a dit ça serait bien que vous vous occupiez de moi pendant un an. Voilà.
La chanteuse Zazie est venue te voir?
Non, elle m'a pas. La chanteuse Zazie, elle a Internet, comme tout le monde. Elle a un compte Yahoo.
Elle t'a envoyé un mail?
Elle m'a envoyé un mail, ouais, absolument. Elle m'a dit, j'ai lu vos bouquins dans un relais en partant en vacances en Thaïlande, ils sont super. J'ai lu ça pendant le vol, je vous ai trouvé super, j'ai vu que vous aviez un blog, j'ai vu que vous saviez parler à plein de gens. Est-ce que vous voudriez vous occuper de moi, de mon premier jour de studio, à mon dernier Olympia pendant un an, 7 jours sur 7, on va créer un site internet, on fait ce qu'on veut, faites des vidéos, faites des photos, faites ce que vous voulez, quoi. Elle me dit, vous êtes payé combien? Je fais, 2400. Ah, je vous paye aussi 2400. Ah, c'est super, alors. Tu vois, comme je suis bon en égo. Quel cata. Je suis passé à côté de ça, de la fortune, mon gars.
Peut-être pas, mais...
Ouais. Ça te la coupe, hein.
En fait, non, mais c'est intéressant, parce que donc tu passes d'infirmier à... alors, comment on pourrait t'appeler? Community manager de Ron, de Zazie, pardon.
Effectivement, à l'époque, c'était ça, c'était webmaster, community manager. Je passe de l'un à l'autre, quasiment du jour au lendemain, ouais. C'est difficile, hein, parce que ça a été très très dur de quitter un métier sécurisé dans lequel je me sentais à l'aise, qui m'apportait une garantie d'emploi tout le temps, pour rentrer dans l'univers du showbiz dont je n'avais ni les codes, ni les, comment dire, ni le vocabulaire, ni le style aussi non plus. Tu sais, j'étais pas habillé comme ça. Ça a été un choc des cultures très très fort.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Les artistes, c'est pas comme les infirmiers, tu sais.
Ah bon?
Non, infirmier, c'est un...
Pareil, il faut pas se faire piquer par Zazie, je pense. D'une manière...
Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Un infirmier, c'est un technicien de santé. Donc, tu viens, t'as des horaires, t'es au 3-8, t'es payé, tu prends ton service, tu le rends, t'as une des tâches à faire, tu travailles sur prescription. Quand t'es dans le showbiz, il faut avoir des idées, il faut oser, il faut prendre des risques, il faut proposer des trucs un peu différents. Parfois, il faut... pas demander l'autorisation de faire les choses, tu vois, il faut aller derrière la scène, puis rentrer petit à petit à pas de loup pour la filmer. Il faut faire des choses, quoi. Et tout ça, je savais pas. Et puis surtout, j'avais jamais travaillé avec des artistes de ce niveau-là. Elle a une réputation quand même nationale, voire internationale. Et ce sont des gens qui ont une vie un peu différente de la nôtre, qui sont habitués à des comportements qui c'est pas les nôtres. Eh oui.
Les comportements, c'est pas les nôtres, tu veux dire.
Je m'exprime mal. Quand t'es une grande star, t'as un agent, t'as une attachée de presse, T'as les assistants, voilà. Donc voilà. Par exemple, tu dis pas aux gens des choses en frontalement. Tu peux passer par ton agent pour dire des choses. Voilà. Tu n'aimes pas ton image, par exemple. Je parle pas forcément d'Asie, hein. Je parle de plein de gens.
Oui. Très bien. Tu travailles pendant un an avec elle, c'est ça?
Ouais, un peu plus, ouais. Un an et quelques mois, ouais.
Et qu'est-ce qui se passe après dans ta vie? Tu bascules chez... Alors attends, parce qu'on a oublié un truc entre ton an, c'est... Quand est-ce que tu vas chez Ionis?
C'était avant. Oh, c'est tellement chiant, mais non.
Mais non, mais on a zappé. C'est lui qui te fait faire le grand saut, non?
Alors oui, mais en même temps, il y avait Zazie aussi.
Ah, ok.
Non, non, ouais, mais c'est... Ionis, on parle jamais. Bon, Ionis...
Ionis qui est donc un groupe.
Ionis, c'est un groupe d'enseignement supérieur que j'adore. C'est pour lequel j'ai beaucoup de tendresse parce qu'ils m'ont offert un boulot chez Epita, Epitech. C'est des écoles d'ingé et j'ai fait du journalisme pendant quelques temps. Voilà.
Ok.
Après, c'est Pascal Nègre qui me dit un jour, il vient me voir, il me fait bon, dis donc, Coco, tu nous coûtes une blinde là, à nous occuper de Zazie là. Bon, nous, on a 300 artistes au catalogue. Il parle pas comme ça, Pascal. Il était toujours un cigare et son verre de Sky à la main. Il me dit, ouais, tu vas venir chez nous. On va lancer une télé, là. Tu vas être rédacteur-chef de la télé. Tu vas t'occuper de tous les artistes du groupe. Ah, mais moi, j'aime Madonna et Paul McCartney. Ah, t'inquiète, t'auras tout le monde. Ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais.
Et donc, tu lances Off TV.
Ouais. Ouais. Alors, Off TV, c'était la première web télé lancée par une major au monde. Elle avait un tout petit problème. Elle devait être hébergée sur Dailymotion. Et oui.
Alors à l'époque,
et oui.
C'est la guerre entre Dailymotion et YouTube. Et mais oui. En gros, Dailymotion a déjà perdu, hein, assez clairement.
Je pense qu'il n'y a jamais eu un moment où on pensait qu'ils allaient gagner. Hein.
Si, en France. Bah, si.
Si, quand il y avait de l'argent au début. Ouais.
En France. Non, c'est vrai, t'as raison. 2006, entre 2006 et 2009, 2008.
Il y avait possibilité d'eux.
Bien sûr.
Bien sûr.
Ils avaient Norman, ils avaient Cyprien, ils avaient tous les jeunes Français qui aujourd'hui cartonnent sur YouTube, ils ont démarré sur Dailymotion.
C'est vrai, t'as raison, c'est vrai, je suis mauvaise langue.
Et ça faisait des vues.
Ça faisait des vues, ouais.
Voilà.
Bah, pas Off TV. Hein.
Le problème, c'est que si je ne me trompe pas, Universal fait partie du groupe Vivendi.
Eh oui, on n'avait pas le choix.
Et que Vivendi faisait partie de. Enfin, Dailymotion faisait partie du groupe Vivendi aussi. Donc, hop, qu'on appelle les synergies.
Eh oui.
Dans les groupes comme ça.
Eh oui. T'as vu la langue de bois, j'ai plus rien là. Oui,
très bien. Et donc, tu te retrouves.
J'ai plus rien.
Tu te retrouves à faire rédac chef de ce de
ouais,
cette chaîne.
C'est génial ça.
À interviewer qui de ABBA?
Tout le monde. Madonna, ABBA, Sting, you name it. Nana Mouskouri, Adamo, tout le monde. Les plus grandes stars pendant 2 ans et demi, ouais. C'était génial. Tout le catalogue. C'était génial. J'étais rédac chef, je recevais les disques tous les lundis, on avait 10 disques. Je les prenais, j'allais voir les chefs de projet, je disais waouh, putain, c'est super, il y a Sting qui est là la semaine prochaine, on peut faire une interview. Ouais, bien sûr, toi tu veux lui parler. Ouais, de ses 3 plus grands tubes. Ouais, OK, vas-y, tu l'as une demi-heure. Voilà. Ah, il y a ABBA qui lance ma mamie à Paris. Ah bah il faudrait aller à Stockholm interviewer Björn et bah vas-y, c'est parti, j'emmène une blogueuse, on y va. Voilà, c'était ça pendant 2 ans et demi. Truc de malade. Puis alors attention, lourd, hein, Nathalie Dessay, des pianistes, j'arrive dont le nom m'échappe, celle qui aimait les loups là, qui était très belle, qui faisait du piano, comment elle s'appelait, je sais plus, toi t'es pas bon classique.
C'est pas la ref.
Tout, des jazzmen, Richard Galliano avec son accordéon, c'est un truc de malade, j'ai vu toutes les stars, dans le blanc des yeux.
Alors, ceci dit, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas, c'est que les accès à ces stars-là, et surtout les plus grosses stars, sont assez restreints d'une manière générale. Et toi, en tant que gars au sein de la major, t'avais un accès quasi illimité, quoi.
Et surtout une confiance absolue, parce qu'on leur disait c'est Off TV de chez Universal, donc ils vont pas vous poser des questions pièges. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, parce que justement, comme ils se méfiaient pas, nous on avait droit à des questions un peu sympas. Mais après, elles étaient coupées au montage, mais bon.
Vous l'avez pas vu là, mais William avait son petit œil de fourbe.
J'ai eu la chance de rencontrer toutes mes idoles et des gens que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu de près. J'ai rencontré un peu plus de 300 artistes, ça a été un moment de malade. Et des artistes internationaux, hein. J'ai vu des gens que peu de gens verront, dans des moments en plus de détente, puisqu'on les voyait avant le concert, pendant le concert, après le concert. C'était un truc de malade. Une expérience incroyable. Grande créativité, on pouvait faire ce qu'on voulait, ça a été une période bénie.
Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes?
Alors c'est tout con, mais quand tu recommences à refaire les sorties 3 ans après des premiers albums, c'est-à-dire moi je suis arrivé, j'ai fait mes 300 artistes au roster, au catalogue, et d'un coup on a les albums d'après, le nouvel album 2. Et quand tu tapes le nouvel album 2, je me dis, ah, je vais peut-être pas refaire une deuxième fois ce que j'ai fait. C'est con, mais c'est vrai, hein, j'avais pas envie de me le retaper une deuxième fois. Je voulais rester dans la magie d'eux. Et quand tu interviews 8 fois Jennifer, moi j'adorais Jennifer depuis la Starac, c'est une fille que je trouve super, hein, que j'ai toujours aimée parce qu'elle est lumineuse. Bah, au bout de la 8e fois, tu te dis, mais je vais le faire combien de fois tout ça? Alors, tout le monde est content, les artistes sont contents, les chefs de projet sont contents, tout le monde est content, mais je voulais pas le refaire une deuxième fois.
En fait. Ok.
Voilà.
Donc tu changes?
Ouais, John Lennon disait,
c'est le moment de citer John Lennon, t'as raison.
Absolument, je déteste, ah putain, je vais la rater. John Lennon disait, je déteste faire une fois la même chose. Voilà, tu vois, c'est une phrase que j'aime bien. Moi, j'allais pas la refaire.
Oui. Tu fais quoi dans ta vie après, alors? Est-ce que tu te dis, bon, c'est bon, ma parenthèse du showbiz est terminée, là, je vais retourner faire infirmier, ça suffit, quoi?
Eh ben, figure-toi qu'au même moment, je me dis, maintenant, je veux un boulot sérieux, tu m'entends? Sérieux. Je veux un truc qui soit pas visible, avec qui paye bien, où je sois, mais dans la tranquillité d'esprit.
Pourquoi?
Bah parce que t'as pas oublié que depuis le début, je cherche un truc pour mon hypervigilance, pour être dans le confort, quoi.
Mais là, t'as bien vu que ça marchait.
Oui, mais c'était pas le... Non, mais... D'accord, mais il y a la névrose et après il y a le karma. Moi, je choisis la névrose, t'es waouh ou quoi. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je finis à la télé. Je me retrouve en direct dans une émission de télé tous les midis avec 5 bonnes femmes. Incroyable, tous les midis.
Comment t'es arrivé là?
Alors, j'écris sur... Il lance une nouvelle chaîne et Laurence Ferrari anime une émission tous les jours avec Bachelot, Pulvar, je sais plus trop qui. Audrey Pulvar, Rosine Bachelot. Voilà, et d'autres...
Il y avait Absat aussi.
Absat aussi, exactement, et Elisabeth Bosse. Et je regarde l'émission, je regarde le lancement de la chaîne et comme j'ai pas été invité au lancement de la chaîne, je suis horriblement vexé, je me dis, je vais casser l'émission. Et donc, je me dis, si j'étais le producteur de cette émission, dans toute ma modestie, sur mon blog, j'écris, moi je ferais ça. Et j'écris ça sur mon blog.
À l'époque, t'es plus Ron l'infirmier.
À l'époque, je suis plus Ron l'infirmier, non, je suis William Réjeau. Et puis au moment où je vais poster ça, je me dis, mais qu'est-ce que t'es méchant une fois de plus, inutilement. Tourne ton truc. Vous n'avez pas l'air étonné, je peux être très gentil.
J'ai l'air étonné.
écris plutôt un truc positif. Si j'étais le producteur de l'émission, moi je ferais plutôt ça. Et donc je le tourne de manière positive. Laurence Ferrari trouve ça sur Google Actu, m'envoie un mail et me dit écoutez, vous comprenez absolument rien à la télé ni à la production, mais je suis quand même curieuse de vous rencontrer parce que je vois que vous avez un truc dans le digital et tout, ça pourrait me faire marrer. Et je vais la rencontrer, on déjeune ensemble 3 jours après, et le crois-tu pas, 3 jours après de plus, donc 6 jours après le billet sur le blog, j'étais à l'antenne tous les midis en direct sans jamais avoir fait de télé de ma vie, sans avoir passé de casting. Il en faut des castings pour passer à la télé, hein. Que dalle, hein.
Alors tu le sais pas sans doute à l'époque. Il faut des castings pour passer à la télé.
Comme pour le bouquin. Moi, je me retrouve avec maquillé, avec une veste qui n'est pas à moi, une chemise qui n'est pas à moi, coiffé, pomponné, tout ce que tu veux, avec 2 micros et une oreillette, sans savoir que d'abord, c'est un métier, que ça, ou en tout cas, c'est une passion, et sans savoir que c'est très, 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 très dur d'arriver là. Surtout qu'à l'époque, l'émission était peu vue, mais elle était très, très regardée par les médias, parce qu'il y avait Bachelot, parce qu'il y avait Pulvar, parce qu'il y avait Ferrari. Et être un des rares chroniqueurs hommes dans une émission de femmes, c'était très exposé. Je me retrouve en plein milieu de saison, ça devait faire octobre, 2 mois après le lancement, les audiences étaient au ras des pâquerettes. 40 000 spectateurs par jour, c'était une catastrophe. Heureusement, personne n'a vu ça, parce que moi, je démarrais, je faisais la télé, sans avoir conscience qu'une fois de plus, c'est un truc de malade.
Et donc tu fais ça? Comme ça, tous les midis?
Non, je fais ça plusieurs fois par semaine, je viens. Quand on me demande, moi j'écris des chroniques sur le digital, sur les relations entre les personnes âgées et leurs portables, sur tout n'importe quoi. Voilà.
Tu viens les faire en direct?
Je viens en direct tous les jours parler à mes collègues, je découvre ce que c'est que la télé.
Comment t'apprends?
C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Comment j'apprends? Bah, j'ai la bêtise de lire les critiques des gens sur Twitter et sur Facebook. Il faut jamais faire ça, évidemment.
Vous faites jamais ça.
Je me fais déboîter. J'apprends. Laurence Ferrari, un jour, je vais la voir et je lui dis, écoute, c'est quoi le meilleur conseil que tu puisses me donner? Elle m'en donne 2. Elle me dit, écoute, c'est comme de la nage olympique. Tu te jettes dans la piscine et tu vas le plus vite possible de l'autre côté. Il n'y a rien d'autre à part ça à savoir. Et la deuxième, il faut que tu ouvres la bouche avant d'avoir quelque chose à dire. Parce que sinon la caméra ne te regardera jamais. Souris tout le temps, même quand t'es pas filmé, comme ça s'il y a des contre-champs, ça sera sur toi. Et ouvre la bouche avant d'avoir quelque chose à dire. Tout le temps.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça veut dire quoi? Ouvre la bouche avant d'avoir quelque chose à dire.
Bah, s'il attend qu'on te donne la parole sur un plateau, on ne te la donnera jamais.
Ah, yes.
Tu vas rester dans l'ombre. Donc il faut tout le temps que tu aies quelque chose à dire. Et donc quand Laurence dit le basketball c'est extraordinaire, la championne de France est là, toi tu la regardes, tu fais moi j'adore le basketball. Et tout le monde sur Twitter fait, mais qu'il est con le pauvre Joe, mais il a toujours rien à dire, quoi. Bah ouais, mais si tu dis pas, tu passes pas, quoi. C'est un cauchemar. Chaque seconde que j'ai passée sur un plateau de télé, c'est un cauchemar. Un cauchemar.
Mais tu prends pas de plaisir?
Aucun.
Mais pourquoi tu le fais alors?
Je le fais parce que ça me permet de sortir de ma coquille. Je trouve que c'est un exercice physique extraordinaire. C'est un moment de peur qui est à dépasser. Un jour, Frédéric Lopez, le type de Rendez-vous en Terre Inconnue, m'a dit que dès qu'on a une peur, il faut toujours y aller parce que ça veut dire qu'on a un apprentissage derrière dans la limite de ton intégrité physique. Et là, mon intégrité physique, elle est pas en jeu. Mmh. Et il y a une peur qui est phénoménale. La peur de la visibilité. Je vais avoir des emmerdements, donc là, on revient à l'adolescence, tu vois, mon Dieu, je vais me faire frapper, je vais me faire insulter, je vais me faire traiter. La peur de dire une bêtise en public, je suis l'imposteur, tu vois, surtout pas parler. Et je crois la peur d'être aimé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont... Et ça arrive, il y a des gens sur Internet qui m'aiment bien. Et la peur, un ensemble de peurs dont je m'empare, je me dis, je vais les dépasser et je vais y aller. Et je vais y arriver. Et c'est affreux. Et tu sais, le direct... Avec des femmes aussi aguerries, je vomissais à chaque fois avant d'entrer en plateau. J'en avais des nausées. J'avais des blancs. J'avais appris mon texte par cœur.
Blackout.
Je ne savais pas ce qu'il y avait sur mes fiches. C'était dès que je rentrais sur le plateau, je voulais partir en courant. C'était un cauchemar. Chaque seconde était un cauchemar. J'en sortais, j'avais perdu du poids. C'était...
T'as fait ça un an ?
Ouais. Dieu merci.
T'as appris ?
Bien sûr. J'ai appris plein de trucs.
Donc finalement, c'est assez positif.
Ah ben évidemment, maintenant je peux parler en public. Maintenant, tu me mets sur un plateau, j'ai plus peur. J'ai appris que c'était pas fait pour moi. J'ai appris qu'il y a des gens dont c'est le rêve et le métier, il faut leur laisser la place. Et j'ai appris ce que c'était aller 10% de la célébrité. Donc l'émission était plus regardée à la fin de l'année et j'ai vu les changements de comportement des gens connus ou inconnus autour de moi. Et je me suis dit, ne mets pas ton doigt là-dedans parce que c'est un cauchemar. Je suis hyper sensible. Moi, je vois tout de suite quand on me ment, quand on me flatte. C'était un cauchemar.
Tu veux dire que les gens autour de toi avaient commencé à changer?
À changer, ouais, bien sûr.
Parce que tu passais à la télé.
Bien sûr. Imagine dans une émission que presque personne ne regardait, 250 000 personnes à la fin. Mais ça changeait, bien sûr. La perception que les gens avaient de moi changeait. Et ça, c'était pas possible. Ça, c'était le plus grand enseignement que j'ai retenu de cette année. C'est je ne veux pas être connu, je ne veux pas faire ça. Je veux bien être reconnu, mais je ne veux pas être connu. Reconnu pour mon travail, mais pas connu pour ma tête à la télé. No way. Puis pour des chroniques qui étaient insipides, qui étaient écrites et réécrites et corrigées parce qu'il fallait que ce soit le plus compréhensible possible, ou pire, des chroniques qu'on m'imposait en dernière minute parce qu'il fallait parler de ça. Mmh. Alors, quand tu dois vendre un truc que tu n'as pas écrit, c'est compliqué.
Ok. En sortant de là, tu décides de vraiment plus jamais faire un métier où t'es connu, c'est ça? Tu peux être connu.
Bah, je l'ai... Non, en sortant de là, je comprends quand même que l'univers de l'audiovisuel me passionne, parce que j'ai adoré la mécanique. Si j'ai pas aimé être sur le devant de la caméra, j'ai adoré tout ce qui se passait derrière. Les métiers du son, les métiers de l'image, la lourdeur d'un plateau télé, la lourdeur de la production, de la réalisation. Et je me dis, putain, j'aimerais bien quand même continuer à rester là-dedans. Et au même moment, Canal+ recrute des gens pour s'occuper de toutes les émissions. Et je me retrouve dans l'équipe de Canal à gérer des émissions. Donc moi, c'était les émissions du midi, parce que j'aime bien me coucher tôt. Donc je gérais la nouvelle édition et le tube. Deux émissions phares de Canal du midi.
Tu faisais quoi?
J'étais le community manager officiel des émissions. J'étais le type qui s'occupait d'apprendre aux animateurs à comment tweeter, comment Facebooker, etc. J'étais le type qui gérait les influenceurs, les grands influenceurs digitaux qui venaient nous voir sur le plateau. J'étais le monsieur live tweet de l'émission en direct tous les jours.
C'était mieux pour toi que d'être face caméra?
C'était génial. Alors là, j'ai adoré bosser dans une rédaction. L'actualité était très lourde en 2014-2015 en plus, entre Charlie Hebdo, le Bataclan, tout ça. Bosser dans une rédaction au cœur d'une des plus belles chaînes à l'époque d'Europe, Canal+. J'ai assisté aux 30 ans de Canal. J'étais à la fête au Palais de Tokyo, c'était juste un truc de malade. Bosser pour Ali Badou, qui est un des types les plus brillants de la télé. C'était un bosser pour Le Tube, qui était une émission sur les médias, qui était d'une qualité folle. C'était génial.
Avec Daphné, c'est ça?
Daphné, ouais. Daphné Burki, ouais. Beaucoup de chance de travailler avec Nicolas Domenac, Ariel Wiesman. Ariel Wiesman, c'est un mec, ce mec est un génie. Ariel Wiesman, un mec qui est un des rares de Canal qui m'envoie des textos de temps en temps pour me demander comment je vais. Voilà, ça c'est cool. Non, c'était génial. Alors les années Canal+, quel bonheur. Juste avant l'arrivée de Monsieur Bolloré.
Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu restes une saison, c'est ça?
Je reste deux saisons.
Deux saisons, okay.
Deux saisons, ouais.
T'as pas peur la première année de te dire, tiens, putain, va falloir que je refasse exactement la même chose que l'année d'avant?
Alors, il y a un truc qui est formidable, c'est que t'as le statut d'intermittent du spectacle. Donc, c'est formidable. Donc, tu peux partir en vacances. Les saisons de télé s'arrêtent vers le 15 juin, je crois, et tu reprends le 28 août. Donc, t'as deux mois et demi de vacances payées. Ça, c'est fabuleux. Et heureusement que tu le fais, parce que bosser sur une quotidienne, c'est épuisant. Puis moi, je bossais sur du live tweet, sur des émissions où tu reçois le grand bâtonnier de Paris ou le ministre de l'Environnement. Donc, tu fais des copies, tu entends des phrases que tu dois copier sur Internet. Parce que ces phrases qui sont reprises par d'autres, par l'AFP, parfois. C'est du boulot, hein. C'est vraiment un travail d'écoute qui est très fort et de retransmission. Mais une fois que je suis parti de ça, je me suis dit, deux saisons, ça suffit. Je fais une troisième saison, je meurs. Parce qu'une quotidienne en télé, je t'assure, c'est épuisant. Épuisant. T'as pas droit à l'erreur en plus. Moi, tu tweets 25 à 30 fois en direct par jour. T'as pas de faute d'orthographe, pas de conneries possibles. Et puis tu représentes la chaîne. Et Canal+, c'était très visible.
Donc tu t'arrêtes fin juin 2015, c'est ça?
Oui, absolument.
Et tu rentres chez Danone?
Oui, ah putain, j'ai pas pu me reposer. J'ai eu le week-end pour me reposer.
Mon pauvre.
Non mais Gio, attends, j'avais fait une quotidienne pendant 9 mois. Et j'étais crevé. Et le lundi matin, bam, Danone.
Bah plains-toi.
Bah tiens.
Problème de riche.
Oui.
Comment tu fais pour rentrer là-dedans?
Comment je fais pour rentrer là-dedans? Bah écoute, comme d'hab, on me demande. Moi c'est story of my life, mais je vais pas mentir.
Oui.
Et d'ailleurs c'est un peu dans l'histoire d'un zèbre aux éditions Le Duc.
On va y venir.
Mais non, mais je rentre parce qu'on me demande, tout simplement. Et ils cherchent un mouton à cinq pattes. Ils veulent un type qui soit bon en communauté, un type qui parle anglais, ça c'est important aussi. Ils veulent un type qui soit un peu senior parce qu'il faut se retrouver au siège social de Danone à bosser direct pour le patron. Ils veulent un type qui a pas peur de plein de choses, qui est capable de faire du média, qui est capable de faire de l'écriture, qui est capable de prendre des photos, qui est capable de pas trembler devant des patrons. Et ils veulent un type qui n'a pas d'ingénieur, il n'est pas ingénieur agronome, c'est-à-dire qu'il soit pas dans le milieu agroalimentaire. Et ben écoute, voilà, je suis ce monsieur.
Alors t'expliques tout ça un peu dans ton livre.
Oui.
Tu sais comment je recoupe ta promo parce que je suis sympa.
Ouais.
T'expliques même un peu tout ce que tu viens de raconter dans le livre, mais avec des pans autour de ta particularité de zèbre, etc. On va y revenir, mais en fait l'un des éléments déclencheurs pour toi, si je me trompe pas, c'est les événements du Bataclan, l'attentat du Bataclan.
Oui. Oui, oui. À chaque fois, je suis toujours un peu ému quand j'en parle, donc je vais inspirer. Oui, je perds un ancien collègue qui était un pote que j'aimais bien, qui s'appelait Thomas, au Bataclan. Et après Charlie Hebdo, déjà, moi, 2002, il y a beaucoup de Parisiens qui ont été traumatisés par 2015. Hein. Et on s'en parle, il y a plein de gens qui ont eu du stress post-traumatique, qui découvrent maintenant, 4-5 ans après. Et moi, j'en ai fait partie. J'ai été pas mal traumatisé par ces années-là. Et le Bataclan, notamment, a été un choc. J'habitais pas très loin, mais j'ai passé un week-end d'angoisse, mais comme des millions de gens. Mais particulièrement, la mort de Thomas a été un choc. Et Danone met en place un groupe de parole avec une psychologue pour les salariés qui veulent s'exprimer. Et je parle de mon chagrin, je parle de mon angoisse à nouveau, de mon sentiment d'insécurité. Et elle me dit, au bout de quelques minutes, elle me coupe, elle me dit, mais vous avez une intelligence en arborescence, je pense que vous n'avez jamais été testé HPI, vous devriez peut-être commencer par ça. je comprends pas très bien.
Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire, ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me dit, vous êtes un zèbre, vous êtes un surdoué, vous êtes un HPI, vous êtes un haut potentiel, vous avez une intelligence différente de la moyenne. Il faudrait peut-être aller vous faire tester parce que vos amitiés, vos amours, votre travail et votre appréhension de la vie en général est visiblement celle de quelqu'un qui ne se connaît pas. Donc je vais lire un bouquin, j'achète un bouquin à Galerie Lafayette, Trop intelligent pour être heureux, que plein de gens ont lu. Je le lis en pleurant toute la nuit, je vais sur des groupes Facebook, je pleure encore plus, j'ai une nuit blanche, et je comprends qu'effectivement j'ai pas été diagnostiqué tôt, et que tout ce que moi j'appelais des hasards, des coïncidences, du karma, comprenais pas pourquoi ces gens venaient vers moi, était peut-être en fait tout simplement le fait qu'effectivement j'amène quelque chose à des gens qui en ont besoin, et que c'était malgré moi.
Tu t'arrêtes là.
C'est-à-dire.
Non, mais c'est marrant comment t'as arrêté ta phrase.
Mais parce qu'il faut arrêter de parler, les gens nous écoutent. Et ma mère me reproche que je parle trop vite. Déjà, je parle peut-être trop, je sais pas, je m'enflamme. Je sais pas, c'est longtemps qu'on parle en plus.
T'as quel âge à l'époque t'as...
Alors,
on le dit pas
mais
plus ou moins, disons que tu n'as plus 15 ans.
Non. J'ai l'âge de la maturité.
Et qu'en gros. Il ouais. vaut mieux, dans d'une manière générale,
mon diagnostic.
Être diagnostiqué à 15 ans qu'être diagnostiqué...
J'ai plus de 40 ans.
La voilà. deuxième moitié de vie. Quoi.
Voilà, j'ai plus de 40 ans quand je suis diagnostiqué zèbre.
Qu'est-ce que tu... Comment ça se passe à ce moment-là, cette découverte?
C'est une déflagration. C'est une prise de conscience que tout ce qui s'est passé, surtout les échecs, parce que tu reviens en arrière et t'analyses, sont beaucoup liés à mon hypersensibilité, à la manière dont je concevais les rapports humains, les rapports professionnels, les rapports amoureux, et que beaucoup de choses que moi j'estimais injustes à la relecture de qui je suis étaient parfois injustes, mais surtout si j'avais compris qui j'étais, je les aurais vécues autrement, et en tout cas j'aurais répondu autrement à parfois ce que j'appelais des agressions ou des demandes que je trouvais bizarres.
Il y a un truc que tu dis qui est très intéressant au tout début du livre, je pense. Dis-moi si je me trompe, mais tu dis que tu détestes être mis dans une case. Je trouve que tu as une façon de te définir en tant que zèbre qui est hyper intéressante parce que tu prends ce terme-là et tu le mets à ta sauce, comme tu le souhaites. Et l'un des reproches qui est souvent fait aux zèbres, c'est de venir dire... Enfin, aux gens qui... comprennent pas ce que ça veut dire, c'est de venir dire bah en fait c'est facile pour toi, tu viens juste dire zèbre, en fait ça veut rien dire, et en fait si ça tombe t'es juste normal comme tout le monde, etc. Je trouve que t'as un discours qui est assez intéressant par rapport à ça, de pas se raccrocher à ça d'une manière générale.
Non, bah d'abord j'ai pas forcément envie de me victimiser ou de m'excuser, c'est pas parce que je suis ça ou ça que forcément je vais tout le temps être ça, et ensuite je pense que moi ça vient éclairer qui je suis, et ça vient me soulager parfois de cette hypersensibilité qui est parfois lourdingue, mais ça ne me définit en aucun cas, et moi j'ai horreur d'être enfermé dans une pièce, dans une case, dans un a priori que les gens peuvent avoir sur moi, j'ai horreur de ça, et dès que tu penses un truc sur moi je vais partir tout de suite à l'opposé parce que je suis comme ça. Donc oui, j'explique que je suis William et je suis zèbre, et zèbre ça recouvre beaucoup de réalités, encore heureux.
Donc dans ce bouquin, tu retraces un peu ton parcours ?
Oui.
Comme on vient de le faire là, mais avec l'angle, pas que.
Ouais, je...
Tu viens donner des conseils aussi.
Ouais, j'ai écrit le bouquin, c'est pas le moment promo, hein, c'est pas le truc. J'ai écrit le bouquin que j'aurais eu besoin de lire à 20 ans. Il s'est passé ça, conséquence de ça plutôt négative, voilà comment j'aurais dû traiter la situation, et voilà ce que moi, maintenant, je pense du truc avec un peu de recul. Voilà. Que ce soit pour l'amour, que ce soit pour l'amitié, que ce soit pour le binôme, moi j'ai besoin de bosser en binôme par exemple, ou pour le boulot.
Comment t'as découvert ça ?
Quoi donc ?
Justement, comment t'as appris à travailler sur toi là, depuis que t'as découvert ça ? Parce que j'imagine que le diagnostic est une chose,
ouais.
Puis après en fait on prend ta table et on fait table rase.
Putain oui.
Et il faut remettre les pièces dans un autre sens.
C'est terrible, ça t'a pas aidé. Moi, j'étais convoqué parfois à des réunions de marketing mondiales. On avait une crise sur un produit. Il y avait des gens qui avaient fait des grandes écoles. Et on était 10 autour de la table. Et puis moi, j'avais mon petit diplôme d'infirmier. Et j'avais une idée de ce qu'il fallait faire. Et donc, je le disais tout de suite. Je savais pas qu'il fallait discuter, machin et tout. Et souvent, au bout de 4 heures, c'était mon idée qui était retenue. Et donc, non, mais c'est dur, ce sentiment-là, de se dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Ce sentiment d'imposture, ce sentiment de... mais pourquoi il m'appelle finalement, en fait? C'est des choses qui me semblaient évidentes, tu vois. Et donc, il a fallu remettre tout ça à plat et se dire, non, je suis pas un imposteur. Oui, j'ai des capacités. Mais après, il faut, j'ai été coaché, donc j'ai vu une coach pro qui m'a aidé à transformer mes valeurs et mes qualités en des outils pour délivrer, un terme très contemporain, pour délivrer dans une entreprise. Et oui, il faut, à un moment donné, transformer l'essai. Un des plus gros problèmes des zèbres, c'est qu'ils vont pas jusqu'au bout des choses. Léonard de Vinci, par exemple, était connu pour des choses qui ne marchaient jamais très... Il n'allait jamais jusqu'au bout de ses projets. Léonard de Vinci, sa plus grande compétence à l'époque, c'était organiser des fêtes. Il était connu parce qu'il organisait des fêtes qui duraient qu'une nuit. Mais tu regardes, il a très peu de peinture, très peu de sculpture, parce qu'il n'allait jamais jusqu'au bout de son truc. Il démarrait des trucs formidables, mais ça se plantait toujours parce qu'il se lassait et passait à autre chose. Et moi, je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'être ça. J'ai envie d'aller au bout de projets. Et donc j'ai appris à aller au bout, à délivrer et à rentrer dans des cases pour que les gens qui me font venir, ils veulent un triangle dans leur boîte de carré, bah, obtiennent ce qu'ils ont demandé.
Et donc aujourd'hui, t'as quitté Danone là ?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais de beau ?
Aujourd'hui, je me repositionne un peu parce que j'ai répondu oui à beaucoup de projets pendant des années. Et je me rends compte que c'est plutôt à moi maintenant d'aller ou proposer mes services... ou aller vers des gens qui m'intéressent. Et il n'y en a pas des masses. Et que ce n'est pas parce qu'on me propose un boulot qu'il faut que je dise oui. L'insécurité est une chose, mais le plaisir personnel, ça, c'est autre chose. Voilà. Et j'ai encore refusé un boulot tout à l'heure qu'on m'a proposé. Et, non, mais c'est vrai, c'était un boulot qui était bien payé, qui était cool, mais je me suis dit, c'est pas vrai, il n'était pas cool, j'allais me faire chier. Je me suis dit non, j'avais un doute. N'y va pas, Will. Donc maintenant, bah, je me repositionne sur ce qui me plaît. Sur un statut qui me plaît, qui est plutôt un statut de consultant sur du moyen, du court à moyen terme. Voilà, j'aime bien me dire que je vais travailler pour des marques, pour des employeurs, pour des groupes entre quelques jours à quelques mois, peut-être un an. Mais on se quittera avant que je me lasse, quoi. Voilà.
Ça a l'air d'être un gros truc chez toi, de se quitter avant de se lasser.
Ah, moi, j'aime pas être enfermé. Moi, les situations de vous êtes là pour faire carrière, vous allez monter les échelons, machin et tout, mais à condition que vous restiez là 5 ans, moi, dès que je me sens enfermé, je fuis, c'est pas possible.
Et t'arrives pas aujourd'hui, même avec l'avoir travaillé sur toi, à rentrer un peu plus dans ces cases-là? Non, c'est trop compliqué, tu te dis niette.
C'est une question biaisée, pourquoi je rentrerais dans ces cases-là? C'est parce que pourquoi? Non.
Arrête de dire que mes questions sont biaisées.
C'est la première fois que je dis ça. J'ai jamais dit ça. Non, mais ça m'intéresse pas. Non, j'ai. Il faudrait vraiment que je rencontre une boîte où je puisse évoluer. Ce qui m'est arrivé chez Danone, d'ailleurs, hein, j'ai changé quand même 3 fois de poste en 3 ans. Hein. J'ai eu la chance inouïe de bosser sur les projets du grand patron 2 fois et d'avoir un 3e poste qui était super. Non, ils ont compris mon fonctionnement. Mais moi, je travaillais au siège social, il y avait 700 personnes. Quand j'ai commencé à connaître 500 personnes, à bien les connaître, tout le monde me disait bonjour, je me disais bonjour à tout le monde, je me suis dit, il est temps de se barrer. C'est quand je commence à vraiment avoir fait le tour d'un truc, il faut que je me barre.
C'est complètement à l'encontre de toute ton histoire de sécurité, là.
Je sais pas. Bah, c'est ce que je te dis, je suis tout et son contraire. C'est comme ça. Bah, c'est la richesse d'une personnalité. Je suis à la fois quelqu'un qui cherche énormément de sécurité et à la fois quelqu'un qui cherche énormément de plaisir dans l'aléatoire, dans le random. Je suis pas là où on m'attend. C'est comme ça.
T'en es content de ce livre ?
Ouais.
C'est ton 8e.
8e. J'en suis content parce que. J'ai des retours là, il est sorti il est sorti le 15 janvier et j'ai plein de gens qui m'ont écrit pour me dire ce qu'ils en pensaient et je me suis dit en écrivant ce bouquin, je suis fou, les gens vont voir à quel point je suis complètement fou. Et en fait pas du tout, j'ai plein de gens qui me disent merci de l'avoir écrit, c'est ce qu'il y a de plus beau, merci de poser des mots sur qui je suis, merci de il y a un type qui m'a écrit et il m'a dit, il était là encore plus loin que moi, il m'a envoyé 3 pages et je lui ai dit c'est vous qui me rassurez monsieur parce que je me retrouve encore plus dans ce que vous dites que dans mon propre livre, merci quoi. C'est ouais, j'en suis très content. Ouais. Bah, il est sincère. Les bouquins sincères, quand ils touchent les gens et que tu as des retours, waouh. Il n'y a pas de posture dans un bouquin où tu te mets tout nu pour expliquer que tu as été différent des autres et tu as désespérément cherché à rentrer dans un cadre. Quand tu as des retours d'autres personnes qui souffrent autant que toi ou qui en ont souffert, bah, c'est magique.
Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que c'est un bouquin qui doit être mis dans toutes les mains des mômes. ou des gamins qui, dont vous sentez qu'il peut être un peu différent, qu'il peut être un peu à part, etc. Parce que ça donne une ouverture, en fait. T'as plein d'exemples, t'as plein de façons. Alors après, c'est tes exemples à toi. Hein.
Oui, qu'il faut c'est pas... un témoignage personnel. Voilà. Je le dis bien dès la première page.
T'es pas psy, t'es pas. Non. C'est juste ton histoire à toi et tes exemples à toi. Mais en fait, ça donne une ouverture qui est hyper intéressante, je trouve.
Et je pense qu'il y a des parents qui ont envie de savoir un peu plus sur le fonctionnement de leurs enfants. Il y a quand même 2% de la population qui est diagnostiquée ou pas, qui est repérée comme étant hypersensible ou HPI. Il y a plein de gens qui même encore maintenant se découvrent. Hein. Moi, je reçois des mails de gens qui me disent, il y a 3 semaines, ils n'étaient pas au courant. On leur a donné le bouquin. C'est souvent autrui. Quelqu'un leur donne le bouquin, dit, tiens, tu devrais lire ça. Et ils le lisent et ils m'envoient un mail. Ils tombent comme moi, ils tombent de l'immeuble, quoi. C'est, waouh. Merde. Alors, je dois tout recommencer à zéro? Eh ben ouais. Mais tu vas voir, c'est plutôt cool. Ou pas. Il y a des moments avec et il y a des moments sans. Non, l'hypersensibilité, c'est lourd, dingue. Bah, tu le sais, toi, tu sais de quoi je parle.
Ouais.
Mais c'est lourd, dingue.
Ça se travaille, c'est tout. C'est un taf, je trouve.
Non, moi, je rêverais d'avoir un bouton que j'enclenche, qui est le bouton normalité. Oh. Tu sais, rentrer dans le. Ah, mais ouais, mais non,
tu
mais attends.
Tu détesterais ça.
Bah, je m'en rendrais pas compte.
Tu détesterais ça.
Peut-être. Je sais pas. Moi, j'envie la vie des gens normaux.
Ça veut rien dire, en plus, normaux.
C'est toi qui l'as dit en premier, d'ailleurs. Si vous écoutez le podcast, c'est lui qui a prononcé le mot normal tout à l'heure. Je n'ai pas relevé, mais... Non, mais j'envie la vie des gens qui ont une... Je sais pas, qui ont un... Je te jure, je connais des gens qui se planquent, des zèbres qui se planquent. J'ai une collègue qui s'appelle Nathalie, si tu nous écoutes, qui se planque dans un boulot. Elle me dit, moi, je veux pas d'emmerdement. Je veux pas qu'on voit que je suis intelligente. Donc, j'ai un boulot à la con, dans une équipe à la con. Et je me fais pas remarquer. Et ma vie se passera comme ça. Et quand je serai à la retraite, je kifferai. Voilà. Ma vie, elle commence le soir quand j'entre à la maison et le week-end avec ma famille. Mais moi, au boulot, tout le monde pense que je suis une assistante de direction stupide et ça me va très très bien.
C'est fou. Bah c'est génial.
Elle se planque. Elle se planque. Et il y en a plein qui sont comme ça. Et elle me dit, moi, le bonheur, il est venu parce que je me suis planqué. Parce que toutes les fois où elle a essayé de réclamer plus, toutes les fois où elle a essayé de montrer qui elle était vraiment, ça lui est retombé sur la gueule à chaque fois. Et moi aussi, le nombre de fois où j'ai voulu, j'allais dire faire le malin, mais
faire le mariole.
Mais non, mais j'ai.
Non, mais,
parfois, oui. Mais parfois, j'ai levé la main en disant des choses qui étaient justifiées, qui étaient vraiment importantes et impactantes pour tout un service. Et ça, c'était pas possible. Parce que ce droit-là ne m'était pas accordé. J'avais pas le droit d'être intelligent et j'avais pas le droit d'avoir une réponse parce que par mon statut ne me le permettait pas.
Et ça commence dès l'école.
Bien sûr. Bien sûr.
Merci, William.
Bien, je t'en prie. C'était un très bel épisode d'Histoire de Daron. On a peu parlé de mes enfants, finalement.
De ton petit dernier, là.
Allez, mon dernier. Et je suis en train d'écrire le 9e. Donc, voilà. Merci à toi.
Bisous.
Bonne soirée. Bonne journée.
Oh, c'était bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.